Nous voulons demander en effet au Seigneur qu'il éclaire notre sentier par sa parole. Cela fait plusieurs semaines que nous suivons le personnage du prophète Élie, son cheminement avec Dieu, ses grands moments, ses moments de détresse aussi. Et nous reprenons donc le cours de cette étude. Et nous avons laissé le prophète Élie à un moment bien difficile de sa vie. Nous allons reprendre ce contexte. Je vous invite à lire dans 1 Roi, chapitre 19, les versets 1 à 4, et peut-être aussi à garder votre Bible ouverte parce qu'on va lire les textes au fur et à mesure du déroulement du récit. Je ne vais pas vous lire le récit en une fois. Donc d'abord, le contexte que nous avions vu il y a quelques semaines. Après la grande confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci, qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de ces prophètes. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda à la mort en disant « Cela suffit, maintenant Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Jusqu'ici, la mise en contexte, et j'évoque pour vous un autre contexte. Samedi 13 décembre dernier, loin d'Élie, championnat du monde de judo à Tokyo. Le français Teddy Riner aborde la finale de la compétition toute catégorie. Deux jours plus tôt, il vient de remporter son 4e titre mondial. S'il gagne ce combat, il entre dans la légende. Il sera le seul judoka de tous les temps à avoir remporté 5 titres mondiaux. Le combat commence. Le français domine, c'est normal. Il attaque encore. Son adversaire japonais refuse l'engagement, systématiquement. Il devrait être pénalisé, il ne l'est pas. À l'issue du temps réglementaire, Teddy Riner pourrait prétendre à la victoire. Mais les arbitres décident d'une prolongation. Elle tournera à la faveur du japonais, par décision des arbitres. Le français dépité explose. « Je me suis fait voler » avant de déclarer « Je ne sais même pas si je vais continuer le judo. » 4 jours plus tôt, il était médaille d'or, champion du monde de sa catégorie. Et voilà que soudain, tout s'écroule. Plus rien n'a de goût, même pas la médaille de quelques jours auparavant. Fatigue morale qui lui fait perdre toute perspective. Un journal commente, fatigue morale, oui, mais aussi épuisement physique après des championnats du monde éprouvants. Et c'est vrai, Teddy Riner dira, je suis vidé. Alors je rassure tous les Antillais, votre Teddy Riner a repris du poil de la bête depuis. Et on en est tous très heureux. Il sortira grandi, il sortira plus fort de cette épreuve. Connaître l'échec après un moment de creux arrive donc même au plus fort. On a parfois besoin de l'entendre, mais aussi de savoir que si tomber est une chose, l'important c'est de se relever, de repartir. Et cela est vrai aussi de notre marche avec Dieu. Il peut arriver que nous ayons un passage à vide. Il peut arriver que l'on s'écroule. Cela arrive même au meilleur. C'est arrivé à Élie, nous l'avons lu. Une stature imposante, lui aussi. Mais il s'est relevé malgré tout, Élie. Ou plutôt, il a été relevé. Car notre récit ne nous dit pas simplement qu'un croyant peut se relever. Notre récit nous dit que Dieu nous relève. Comme le dit si bien le psaume 37, « Le Seigneur affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. Si l'homme tombe, il ne sera pas terrassé, car le Seigneur soutient sa main. » Comment donc le Seigneur s'y prend-il pour relever quelqu'un ? Je vous invite à en suivre les étapes dans notre récit. Nous continuons la lecture, versets 5 à 8. Élie se coucha donc, était endormi sous un genêt. Et soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Élie mangea et but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Comment donc le Seigneur s'y prend-il pour relever les siens? Première étape ici, le Seigneur envoie à Élie un ange en direct du ciel. Mieux, le Seigneur lui envoie l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, tellement proche du Seigneur que souvent, que parfois on l'identifie même au Seigneur. Un messager tout spécial, venu pour Élie du ciel, qui est là, Élie écroulé sur son arbuste en demandant la mort. Et je crois qu'il ne faut pas manquer la portée de ce message. Le Seigneur vient vers nous. Le Seigneur vient vers nous même lorsque nous sommes à terre. Le Seigneur ne nous regarde pas du ciel indifférent ou consterné. Il ne pose pas de questions, il vient. Il envoie du secours. Même pour celui qui, complètement par terre, n'a plus la force de demander de l'aide ou n'a même plus envie de demander de l'aide. Le Seigneur ici envoie son ange. Il doit avoir un message important, l'ange. On ne déplace pas un ange pour rien quand même. Quand l'ange du Seigneur vient, en général, il annonce un message important qu'il faut écouter, qui va compter. Un ange vient pour annoncer à Moïse la libération d'Égypte, du peuple qui est en esclavage. Un ange vient pour annoncer la délivrance d'Israël à Gédéon, aux parents de Samson. Des anges ont donné la loi de Dieu à Moïse. C'est important, la parole d'un ange. Cela s'écoute, la parole d'un ange. Certains la graveraient sur la pierre, la parole d'un ange. Quel est-il donc le message spécial de l'ange, de l'envoyé du Seigneur venu du ciel pour Élie? Élie qu'il faut relever. Élie à qui il faut donner, il faut rendre le sens de sa mission, qu'il faut remettre sur le droit chemin, en qui il faut restaurer la foi, l'hardiesse pour Dieu qu'il a perdu temporairement. Quel est le message de l'ange? Alors, imaginez un moment que vous êtes cet ange, chargé d'aller chez Élie. On vous a demandé d'aller au secours de quelqu'un, d'un grand homme de Dieu qui est tombé. Quelqu'un qu'il faut relever, quelqu'un qu'il faut redresser, reconsolider pour Dieu. Vous êtes là, vous avez reçu le message, vous partez du ciel. Là. Ça y est, on y va. Et là, on est en route. Et heureusement qu'il y a de la route. Heureusement qu'il y a de la route parce que ça vous permet, pendant le temps du voyage, de réfléchir à ce que vous allez lui dire à cet homme pour le relever. Chercher les paroles fortes que vous allez lui dire. Chercher les versets puissants dont il a besoin. Chercher la démonstration qu'il lui faut pour pouvoir qu'il sache que vraiment avec le Seigneur, il n'y a pas de découragement qui vaille. Vous êtes là, vous avez pensé à tout ça, vous approchez de la terre. Et vous arrivez là auprès de lui. Vous avez en tête le message le plus fort, le message qui est prêt à relever le pire des mécréants. Vous arrivez tout près d'Élie. Et là, vous vous souvenez qu'au départ, le Seigneur vous a donné un petit papier sur lequel il vous a donné des instructions pour la mission. Et vous déroulez le papier pour lire les instructions du Seigneur, le message du Seigneur pour redresser celui qui est tombé. Il y a 7 points, comme par hasard. Premier point, chut, le laisser dormir. Il a besoin de sommeil. Deuxième point, tout doucement, lui préparer à manger. Ne pas oublier l'eau, c'est vital. Troisième instruction, le réveiller en douceur, l'inviter à manger et laisser faire. Quatrième instruction, chut, le laisser encore dormir. Il a encore besoin de sommeil. Cinquième instruction, tout doucement, lui préparer encore à manger. Ne pas oublier l'eau, c'est vital. Sixièmement, le réveiller en douceur, l'inviter à manger, l'inviter à reprendre la route. Septième instruction, ne rien faire d'autre, ne rien dire d'autre. Fin de la mission. Je suivis exactement le texte. La mission du Seigneur, envoyée, confiée à l'ange, envoyée du ciel, pour remettre Élie sur pied, pour remettre Élie dans la foi, c'est cela. Être là, à ses côtés, le laisser dormir, donner à manger, à boire, laisser dormir, donner encore à manger, inviter à reprendre la route. Autrement dit, pas de discours. Être là, le laisser récupérer, lui en donner le temps et les moyens. L'ange est venu spécialement du ciel pour dire cela. Le message qui reste tous les temps de cette mission venue du ciel, c'est cela. C'est nous dire cela. Pour remettre quelqu'un debout, pour le remettre sur les rails de la foi, il y a des réalités à respecter. Et parmi ces réalités à respecter, le corps et ses besoins, le temps qui doit faire son œuvre. Et cela, ça nous dérange peut-être, je ne vous sens pas très enthousiaste, ça nous dérange peut-être, mais il nous faut l'entendre. Il nous faut l'entendre. Car nous avons tellement une fâcheuse tendance à penser que la foi devrait nous faire échapper à ce genre de réalité-là. Que le propre de la foi, c'est justement de court-circuiter ces réalités trop humaines ou trop naturelles. Ce récit nous dit que le propre d'une foi biblique, ce n'est pas de court-circuiter ces réalités naturelles, mais de les intégrer. Nous croyons que Dieu nous a donné un corps. Nous croyons que Dieu l'a fait. Nous croyons qu'il faut tenir compte de ce corps dont Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné. Nous croyons qu'il faut en respecter les rythmes et les réalités. Quand on fait cela, on n'est pas en dehors de la foi, on ne manque pas de foi, on respecte la foi au Dieu créateur, qui a fait de nous des créatures merveilleuses, mais ancrées dans des lois qu'il a lui-même données, qu'il respecte et qu'il veut nous voir respecter. La foi nous inscrit dans le monde créé par Dieu, l'ange nous le rappelle ici. Grâce au soutien de Dieu, Élie a accompli des choses magnifiques. Il a été tout seul devant des centaines d'hommes hostiles. Il a tenu bon. Il faut du temps aussi pour certaines rééducations, certains d'entre nous le savent très bien. Certains chocs émotionnels, certaines épreuves de la vie très lourdes, pareillement, demandent du temps, demandent des circonstances, des reconstructions progressives pour se résorber. Ça ne se fait pas comme ça. Acceptons ces réalités. Respectons-les. C'est, je crois, un des messages de ce texte. Et si nous voulons jamais, si jamais nous voulons un jour essayer d'aider quelqu'un à se relever, si nous voulons lui être utile, gardons dans notre esprit aussi un peu quelque chose de cet ordre de mission reçu par l'ange venu du ciel pour soutenir Élie. Demandons-nous si, avant de parler, si avant de faire toutes sortes de grands discours, si avant d'inciter à plus de foi, si avant de secouer pour que la personne se réveille un petit peu, demandons-nous si nous savons être présents à ses côtés, si nous savons être attentifs à ses besoins premiers, comme l'ange qui a été témoin et attentif aux besoins premiers d'Élie et qui conditionne tous les autres. Si quelqu'un souffre et que nous venons à sa rencontre, ne discourons pas sur sa souffrance. Ne lui faisons pas non plus forcément de grands discours sur le moment où il n'y aura plus de souffrance dans le ciel, mais soyons d'abord présents. Cherchons les gestes capables d'apporter un peu d'apaisement, d'apporter un peu de confort. Souvenons-nous des amis de Job. Ils ont fait du bien à leur ami Job tant qu'ils ont été là, présents à sa souffrance. Ils ont commencé à le faire souffrir au moment où ils ont commencé à parler sur lui, à parler sur les causes, à parler sur les solutions, etc. La présence, l'attention à l'autre avant les paroles. c'est une règle d'or. Et pour les paroles, ensuite, de la prudence, de l'écoute, et je dirais de la dépendance de Dieu aussi. J'aimerais aussi, en pensant à cette mission de l'ange, en profiter pour ce matin saluer et encourager vous tous qui, ici ou là, pensez à aider une personne par un simple geste, par un petit mot écrit, par un gâteau, par un plat cuisiné, par un texto. Vous ne savez pas combien de fois vous avez été peut-être par ces gestes simples venus du cœur, comme cet ange du ciel, pour quelqu'un qui était dans la difficulté. Élie avait besoin ce jour-là de ses attentions pour son relèvement. Jésus nous dit aussi qu'au jour où toutes choses apparaîtront dans leur pleine lumière, il y aura de vraies surprises quant à la portée de ces gestes tout simples qui auront été faits. Ne nous lassons pas de faire le bien, d'avoir ces attentions là où nous pouvons les avoir, ce bien à portée de main, à la rencontre de celles et de ceux que nous côtoyons. Première étape, donc, dans le relèvement d'Élie, il faut entendre vraiment cette chose-là. Mais nous voyons dans la suite du récit que si Dieu respecte les temps, si Dieu respecte les besoins de son serviteur Élie, il a aussi un rendez-vous pour lui, pour le remettre sur pied. Et nous allons continuer donc notre lecture à partir de la deuxième partie du verset 8. Élie donc se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Et soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré tout mon zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils me recherchent pour me prendre la vie. » Le Seigneur reprit et dit « Sors !» Et tiens-toi dans la montagne, dans le Seigneur. Or le Seigneur se mit à passer. Un vent violent arrachait les montagnes, brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans ce vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, ce fut un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme et une voix comme un souffle léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré mon zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées. » Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté seul, ils cherchent à me prendre la vie. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Puis tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi d'Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Élie nous a-t-il dit, après avoir reçu le soutien, marcha 40 jours et 40 nuits, vers la montagne de Dieu à Horeb. Il est là en quelques mots une symbolique absolument puissante. Élie reprend la marche, oui. Mais tout lecteur un peu familier de la géographie biblique sait dans quelle direction Élie reprend la marche. Élie reprend la marche, mais s'il va vers Horeb, c'est vers le sud, ça veut dire qu'il marche dans le désert. Comme Israël autrefois, qui avait marché dans le désert. Élie marche 40 jours et 40 nuits. Israël avait été 40 années dans le désert. Mais Israël allait du désert vers la terre promise. Élie, lui, part de la terre promise et retourne dans le désert. Et quand on regarde Élie marcher, on a l'impression qu'il est en sens inverse de ce qu'il faut faire. On a l'impression qu'il régresse, comme s'il retournait vers l'Égypte. Mais contrairement aux apparences, Élie ne régresse pas. Parce que dans ce désert, avant l'Égypte, il y a un autre lieu, la montagne de Dieu, à Horeb, le mont Sinaï. C'est là que Dieu s'est fait connaître à Moïse, que Dieu s'est fait connaître au peuple d'Israël. Et contrairement donc aux apparences, Élie ne régresse pas, mais il revient aux sources. Et Dieu lui donne la force de marcher jusqu'à ce rendez-vous. Il marche 40 jours et 40 nuits, nous a-t-il dit. Ça évoque la marche du peuple d'Israël dans le désert. Mais en relation avec la montagne du Sinaï, 40 jours et 40 nuits, ça évoque autre chose. Ça évoque Moïse. Moïse qui a passé sur la montagne du Sinaï 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Dans la nuée, vraiment, alors que le mont Sinaï était tout en fumée de toute l'action, de tous les ébranlements de Dieu. Élie, qui se retrouve là, apparaît donc aussi comme un nouveau Moïse, d'une certaine façon. Et Jésus, nous le savons, Jésus qui passera aussi 40 jours et 40 nuits dans le désert, au début de son ministère, est dans la même ligne. Moïse, Élie, Jésus, la loi, les prophètes, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et la transfiguration de Jésus les rassemblera tous les trois dans cet ordre. Ce que je trouve très intéressant de voir ici, pour Élie, c'est le contraste. Apparemment, il fait tout à l'envers. Apparemment, il fait tout à l'envers. Les 40 jours et 40 nuits d'Élie ne sont pas un temps où, comme Moïse, il est au cœur de la nuée et dans la présence de Dieu. Pour Élie, les 40 jours et 40 nuits sont un temps un peu plus incertain, où Élie est en train de marcher vers la présence de Dieu. Il marche vers, il n'y est pas vraiment. Et c'est cet Élie à la marche incertaine, mais soutenu par Dieu, qui est mis sur le même plan que Moïse. Autrement dit, Dieu accepte nos cheminements. Dieu accepte nos cheminements. Ce qui compte pour Dieu, c'est vers quoi nos cheminements nous conduisent. C'est ce que Dieu prépare pour nous, c'est ces rendez-vous vers lesquels nous marchons. Et qu'il prépare parfois malgré les apparences qui peuvent être contraires, comme cette marche qui a l'air d'être une marche à l'envers ou à reculons. Et j'aimerais juste dire que nous pouvons connaître nous aussi, à certains moments de notre vie, des temps incertains, des temps un peu bizarres, comme cette marche d'Élie vers Horeb. Des temps dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils font en nous, s'ils nous grandissent ou s'ils ne nous grandissent pas, s'ils nous font progresser ou non. Extérieurement, on pourrait presque dire que nous régressons. Intérieurement, pourtant, quelque chose se construit. Nous nous acheminons vers un rendez-vous, vers un lieu où nous allons rencontrer Dieu, vers un retour vers Dieu peut-être, vers un moment qui nous remettra d'aplomb. Et je dirais que le message de ce texte, c'est que dans ces temps bizarres, dont nous n'avons pas toujours la clé, je ne suis pas sûr qu'Élie savait exactement, précisément où il allait. Dans ces temps bizarres dont nous n'avons pas entièrement la clé, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons marcher avec la force reçue de Dieu, d'un Dieu qui nous accompagne, d'un Dieu qui nous soutient et qui veut nous conduire, lui, vers un rendez-vous qu'il a préparé pour nous. Il y a donc la marche, cette marche un peu étrange. Mais au terme de la marche, il y a la rencontre. Et cela, ça va être décisif, la rencontre avec Dieu. Une rencontre renouvelante, rafraîchissante d'Élie avec son Dieu. La rencontre qui va changer toute la donne. Et certaines choses importantes se jouent comme cela dans notre vie. On ne sait pas forcément à certains moments où on en est, mais on sait que viendra un moment où il faudra faire un point avec Dieu. On sait que viendra un temps où il faudra un temps, prendre un temps spécial pour lui parler, pour s'arrêter. Pour le retrouver peut-être, si on s'est éloigné de lui. Ou pour prendre une décision d'obéissance, si on est un petit peu rétif par rapport à ce qu'il nous demande. On le sait, et on marche vers ça. Comme Élie qui marche vers la montagne de Dieu, à Horeb. Alors, je ne sais pas, mais si jamais vous sentez ce genre de choses mûrir en vous, si vous sentez qu'il y a un moment donné où il faudra que Il y a quelque chose qui se passe avec Dieu. Si vous sentez que c'est en vous depuis un certain temps, ne reculez pas. Ne remettez pas à plus tard. Mais faites-le. Sans tarder, prenez un temps pour vraiment vous présenter devant Dieu. Et pas 3 minutes vite fait, mais juste un temps pour une vraie rencontre avec Dieu, où vous faites le point devant lui. Parlez-en peut-être à quelqu'un d'autre si vous avez besoin d'être aidé. Vous pouvez en parler au responsable de l'Église si vous le souhaitez. Mais faites la démarche si vous sentez qu'il y a quelque chose qui mûrit en vous et qu'il faudrait faire. Que se passe-t-il pour Élie ? Il arrive à la montagne d'Horeb. Et nous a-t-il dit, il entre dans la grotte, il entre dans la grotte pour y passer la nuit. Quelle grotte est-ce ? Peut-être la grotte où Moïse s'est tenu quand il a passé 40 jours, 40 nuits sur la montagne, on ne le sait pas, c'est possible. Mais en tout cas, Élie est dans sa grotte et voilà qu'au petit matin, probablement au petit matin, il entend la voix de Dieu. Avec une question, que fais-tu ici, Élie ? Ce n'est pas un reproche cette question, c'est une invitation. Et une invitation pour Élie à dire à Dieu, avec ses mots, ses sentiments, ce qui le traverse profondément. Et je dirais que c'est toujours comme ça que les choses se passent. Lorsque nous venons devant Dieu, Dieu nous laisse cette possibilité d'une parole ouverte. Dieu nous prend là où nous sommes, comme il le fait pour Élie. Mais que fais-tu ici, Élie ? Il nous prend là où nous sommes et il nous veut devant lui tel que nous sommes. S'il y en a un devant lequel nous n'avons pas à faire de s'imagrer ou à être autre chose que nous sommes, c'est vraiment le Seigneur, il nous connaît. Et on voit ici qu'Élie ne dit pas des choses merveilleuses à son Dieu. Il dit son engagement, oui, il dit son sentiment de solitude, il dit son sentiment d'échec, il dit ses peurs. Ce n'est pas la belle prière du début du culte qu'il nous fait là. Hein. Il nous dit vraiment ce qu'il ressent, véritablement, en vérité. Mais c'est une parole vraie. Une parole authentique, honnête, et une parole qui, cette fois-ci, très grand changement, n'est plus tournée sur lui-même, c'est ce qu'il se disait avant à lui-même tout seul, mais qui est tournée vers Dieu. Et il est important que nous apprenions à faire cela. Tout cela s'est passé dans une grotte, un endroit sombre, fermé. Et la parole du Seigneur à Élie est significative. Le Seigneur lui dit « Sors de la grotte ». Sors de la grotte et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Quelle parole ! Sors de la grotte et tiens-toi devant le Seigneur. Élie s'était enfermé. Le Seigneur l'invite à sortir de cet enfermement pour le rencontrer, lui. Et nous ? De quelle grotte ? De quel ancien enfermement aurions-nous ? Peut-être à sortir si cette parole nous était adressée. Sommes-nous dans la caverne de l'amertume ? En voulons-nous à quelqu'un ou à Dieu ? Sors de cette caverne et tiens-toi devant le Seigneur. Sommes-nous dans la caverne du découragement, de l'isolement ? Sors de cette caverne et tiens-toi devant le Seigneur. Sommes-nous dans la caverne d'un problème non réglé, d'une demande de pardon à faire, d'une démarche que nous savons nécessaire ? Sors de ta caverne, tiens-toi devant le Seigneur. Sommes-nous dans la caverne trop douillette du confort, de la nonchalance, du laisser-aller ? Sors de ta caverne et tiens-toi devant le Seigneur. Élie accepte de sortir. C'est-à-dire juste s'ouvrir finalement à ce que Dieu peut lui dire. D'autre rester replié sur sa grotte, s'ouvrir, se tenir dans la montagne, voir ce que Dieu peut lui dire au travers de ce qu'il manifestera ou lui montrer. Élie se tient là devant Dieu, sur cette montagne, et il attend. Et voilà que la montagne de Dieu devient le théâtre de toutes sortes de manifestations de la puissance de Dieu. Un vent de tempête qui crée des éboulis, des avalanches, un tremblement de terre qui ébranle tout, la foudre qui embrase tout, c'est terrifiant. Imaginons la scène. Si vous avez déjà été dans un orage, en montagne, quand il y a un orage, c'est impressionnant parfois. Élie, tremblant de se sentir tout petit, écrasé, probablement incapable de soutenir ce spectacle. Élie, à ce moment-là, revit l'expérience du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte quand ils étaient arrivés au Sinaï. Là aussi, montagne en feu, tremblement de terre, ébranlement, et un message du Seigneur, interdiction de s'approcher sous peine de mort. Le Sinaï de la puissance de Dieu, de la sainteté de Dieu qui crée la distance et qui écrase. C'est ça ce que vit d'abord Élie. Cette puissance est un attribut de Dieu, sa sainteté aussi. Élie avait invoqué cette puissance de Dieu contre Israël infidèle, contre les Baals. Et nous avons besoin de savoir que Dieu est capable de tout ébranler. Mais, nous dit notre texte, en ce qui concerne Élie, le Seigneur n'était pas dans ses déferlements. Il les avait suscités, bien sûr, mais ce n'était pas là son message pour Élie. Le prophète, dans son découragement, dans sa difficulté, n'avait pas à s'identifier à Israël, tenu à distance par le Seigneur, écrasé par sa grandeur, comme ça avait été le cas lorsque le peuple était arrivé au Sinaï la première fois. Si Dieu a fait passer tout cela devant Élie à ce moment-là, c'était pour dissiper cette crainte. Et je pense que cette crainte, ça peut nous arriver aussi aux uns et aux autres de la partager lorsque nous nous approchons de Dieu. En disant, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Lorsqu'il s'agit de venir devant Dieu, surtout avec ce qui nous pèse ou ce que nous avons à régler. Dieu suscite ce vacarme, il faut qu'Élie l'entende. Mais il n'y est pas là. Et la suite du récit aidera Élie à le comprendre. Parce que après le vacarme terrifiant soudain, c'est le silence. Un silence, un calme, bienfaisant, apaisant. Ça fait tellement de bien, après un tel déferlement. Un silence qui certainement prend sens après tellement de bruit, un peu comme le soleil prend un sens particulier après la pluie. Et puis en plus, et là de ce silence, un autre signe, la voix d'un souffle léger. La voix d'un souffle léger, la voix d'une brise légère. Et par contraste, Élie comprend quelque chose ici. Le message de Dieu pour lui, maintenant, c'est cela. C'est cela. Et lui revient très certainement le souvenir d'une deuxième manifestation de Dieu à cette même montagne du Sinaï. C'était une manifestation de Dieu à l'égard de Moïse. Moïse qui, comme Élie, était épuisé par la révolte du peuple d'Israël qui avait forgé un veau d'or et était parti dans l'idolâtrie. Moïse qui avait prié et lutté pour que Dieu n'abandonne pas son peuple malgré ses errements. Et à bout de force, Moïse avait eu cette requête inouïe en disant « Seigneur, fais-moi voir ta gloire !» Et le Seigneur avait répondu, avait caché Moïse au creux d'un rocher et était passé devant lui en proclamant « le Seigneur, compatissant, miséricordieux, riche en bonté, en fidélité, qui conserve sa bonté sur 1000 générations, qui pardonne la faute, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. » Et Moïse s'était incliné, comprenant qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il avait fait sa demande en disant « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, passe, montre-moi ta gloire. » Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le Seigneur avait continué sa route avec son peuple, renouvelé son alliance et agi conformément à cette alliance. Cette voix, comme une brise, un souffle léger, après la tempête du Sinaï, c'est pour Élie, en quelque sorte, le renouvellement de la promesse que Dieu avait faite à Moïse, pour l'encourager à continuer lui aussi, Élie. Et cette promesse, elle tient en un mot. Le Seigneur est riche en grâce. Le Seigneur est riche en grâce. Oui, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque la voix de Dieu vient à nouveau vers Élie pour lui dire « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie sait dans quelle optique Dieu pose la question. Dieu lui pose cette question malgré son découragement, malgré sa faiblesse, malgré son écroulement, malgré cette marche incertaine. Parce qu'il a trouvé grâce personnellement aux yeux du Seigneur, comme Moïse, le fidèle d'entre les fidèles. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Je t'aime d'un amour éternel, comme on l'a lu. C'est cela le message de la voix comme une brise après le déferlement de la puissance de Dieu. Et c'est un message qui nous est donné aussi et que nous avons à recevoir ce matin, que nous pouvons recevoir pour nous encourager. C'est le message que Jésus-Christ, lui, ça là c'est pas juste un ange, que Jésus-Christ est venu nous annoncer dans la manifestation la plus inouïe qui soit de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée dans le partage. Le Christ a quitté sa gloire pour venir vivre notre vie d'homme. Il a vécu cette vie dans ses hauteurs, dans ses fragilités. Il a tenu bon dans la fidélité. Et il s'est donné pour nous, il s'est livré lui-même pour nous. Il a connu une mort infâme qu'il ne méritait pas. Il a endossé la condamnation insoutenable que méritaient nos fautes. Il a été livré pour nous. Il a connu la mort, une mort qui a été totale. Mais le Père l'a ressuscité au troisième jour. Tout ne s'est pas fini dans la nuit, dans le châtiment, dans le mal, dans la mort. La grâce de Dieu s'est manifestée comme une grâce victorieuse qui relève, qui fait vivre, qui permet d'avancer, qui donne une espérance. Et depuis ce jour, le peuple de Dieu vit chaque jour de cette grâce, chaque jour de cette victoire. Alors j'aimerais dire, ne nous habituons surtout jamais à cette histoire. Ne nous habituons jamais à cela. Elle n'est pas du passé, c'est notre actualité. Ce n'est pas quelque chose du passé simplement, c'est un recours pour nous, tout comme le recours d'Horeb a été quelque chose pour Élie à ce moment-là. C'est véritablement un repère qui est laissé. Le Seigneur, aujourd'hui encore, veut nous rencontrer, veut nous relever, veut nous pardonner, veut nous faire revivre, veut nous faire sortir de nos enfermements, de nos cavernes. Peut-être qu'il nous a conduits à ce culte juste pour nous dire cela, ce matin. Il n'attend qu'une chose, que nous sortions de notre caverne pour aller devant lui. Il veut nous dire personnellement, et il saura le faire si nous venons à lui, prends courage, tiens bon, relève-toi. Tu as trouvé grâce à mes yeux, si c'est là ce que tu cherches. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu est tes dieux. Riche en grâce et en bonté, il veut l'être pour chacun de nous. Amen. Amen.